Open Space, le magazine des arts visuels. Chères auditrices et auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Radio FM+. Bienvenue dans l'émission Open Space, le magazine des arts visuels sur 91 FM. Au micro, Nathalie Belaïche. Au fil des émissions, nous allons à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des lieux à Montpellier sur son territoire. Avec nos invités, dans Open Space, nous parlons art plastique, photographie, vidéo, cinéma, performance, mais aussi graphisme, édition, encore mode et architecture. Le magazine Open Space est diffusé désormais en direct un mardi sur deux à 12h10, puis en rediffusion toujours le mardi à 18h10. Et bien sûr, Open Space est à réécouter et à partager en podcast via radiofmplus.org/openspace. Les arts visuels, on ne les voit pas, mais on en parle dans Open Space et c'est tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, dans Open Space, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste plasticienne Christine Mazduro. Bonjour Christine.
Bonjour Nathalie.
Bienvenue dans Open Space et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous reçois donc à l'occasion de l'exposition installation Baltimore au lever du jour, qui se tient actuellement au Centre chorégraphique national de Montpellier-Occitanie jusqu'au 12 novembre. Donc Christine Mazduro, vous êtes plasticienne, on dit, mais aussi psychanalyste. Et cette double casquette, on va dire, inspire tout votre travail. Mais pouvez-vous nous parler un peu de vos débuts dans... comment avez-vous commencé une carrière artistique, on va dire, votre pratique artistique, la broderie en l'occurrence?
Alors... je dois dire que la broderie, je l'avais commencée très très jeune. Je l'avais mise de côté, mais je m'étais toujours dit qu'un jour, j'y reviendrais de manière plus approfondie, plus intense. Et c'est aussi pour sortir de la relation thérapeutique à deux que j'ai éprouvé le besoin d'ouvrir un espace... où je pouvais m'exprimer moi, hein, parce que dans la relation thérapeutique en tant qu'analyste, ben, je suis amenée quand même à beaucoup de silence, de réserve, de neutralité. C'est pas le lieu où on peut s'exprimer. Voilà, je suis plutôt à l'écoute de l'inconscient de l'autre. Voilà, donc j'ai éprouvé le besoin de mettre en forme des choses qui m'importaient.
Oui, parce que justement, l'inconscient est aussi se situe un petit peu au cœur de votre pratique. Enfin, en tout cas, c'est un de vos sujets majeurs. Enfin,
oui, de prédilection.
De prédilection, c'est voilà, hein, c'est le cas de le dire. Et justement, on va revenir un petit peu sur vos expositions précédentes pour recontextualiser un petit peu votre travail. Vous aviez exposé en 2018, je crois, à la galerie Agnès B à Montpellier et au Chez du Terrain. Il y a un travail qui s'intitulait Le Beau Danger. Et là, qui étaient des installations, plutôt des culture, comment appelez-vous ça en fait
Des tableaux.
Des tableaux.
Oui, c'est des broderies. Hein. Des broderies, c'était plutôt en deux dimensions, même s'il y avait quand même des cerveaux qui étaient déjà des sculptures souples, on va dire. Ce sont des sculptures souples.
Ok. Et récemment, plus récemment, en tout cas, vous êtes intervenu au CRAC à 7 pendant l'été, avec un projet qui s'appelait Women Circle, dans le cadre du programme Canal Royal. Et pouvez-vous nous un petit peu revenir sur cette expérience, en fait, parce que vous invitiez des personnes, des femmes, des visiteurs, à venir broder avec vous.
Oui.
Pouvez-vous nous raconter un petit peu cette expérience, cette aventure?
Oui, avec plaisir, parce que c'était très, très riche comme expérience. Hein. Ça faisait un moment que j'avais envie d'ouvrir ma pratique au collectif. Et, parce que la broderie, finalement, c'est tellement simple comme médium. Il suffit d'un tissu, du fil, d'une aiguille. Et puis, on peut s'exprimer. On n'a pas forcément besoin de faire de la peinture à l'aiguille pour pouvoir s'exprimer par le fil. Donc, j'avais proposé à Marie-Cosette donc, un travail comme ça.
Marie-Cosette, qui est la directrice du CRAC.
Du CRAC. Un travail en collaboration avec des femmes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour faire une œuvre collective. Donc, c'était très chouette parce que... c'était presque, on va dire, une performance. Il y a eu l'œuvre que j'avais préparée, moi, un grand tondeau, un grand disque comme ça, avec comme différentes parties, comme un jeu de loi, ou comme, où chacune pouvait broder sa propre partition sur le thème de la féminité et de son émancipation en tant que femme. Donc chacune brodait, avait le loisir de broder comme elle voulait, chacune choisissait un tissu, et puis pouvait broder une phrase, un symbole, une chose qui lui appartenait et qui symbolisait son émancipation d'être femme.
Mais en fait, c'est un travail en fait, qui était comme un sort de... Enfin, pas un cadavre esquime, enfin, je sais pas. Chacun sur la même trame, sur la même tissu, chacun venait rebroder quelque chose ou bien c'était une pièce, chacun pouvait produire une pièce
Chacun produisait une pièce. Donc, vous voyez, c'est comme sur ce grand cercle, comme un immense jeu de loi avec des cases que j'avais moi-même préparées.
D'accord.
Et sur chacune de ces cases, chacune des participantes était invitée à choisir un tissu qu'elle brodait comme elle voulait.
Okay.
Donc, chacune, je ne sais plus, il y avait...
Parce que ça a duré pendant...
Vous avez une trentaine de pièces.
4 jours, enfin, voilà. Je crois, il y a eu quatre après-midi, je crois,
oui,
de rendez-vous.
Cinq journées de rendez-vous. On travaillait, oui, de 2h à 18h30. Et c'était très agréable parce que broder ensemble, c'est à la fois de l'intime, voilà, où on est dans un temps, dans un silence particulier. La broderie implique ce geste-là, implique à la fois cette répétition, cette concentration et cet ailleurs possible. Donc, ça permet des échanges, c'est doux et engagé en même temps. J'aime beaucoup l'ambiance que ça génère. Voilà, c'est très agréable. Et je pense que beaucoup des participantes ont... Enfin, j'ai eu beaucoup d'excellents retours, en fait.
Ouais.
Des gens qui n'étaient pas prévus de s'être inscrits sur les 5 jours, qui finalement se sont inscrits sur les 5 jours. Non, c'était très, très bien. Donc, c'était complet.
Intense.
Très intense. Ouais.
Ok. Et en fait, ça a été exposé ensuite, quoi, chaque...
Eh ben, juste à la fin.
Oui.
Donc, moi, après, dans mon propre atelier, j'ai cousu. On ne pouvait pas à la fois coudre et puis faire tout le travail de broderie
dans la journée. Vous avez
finalisé, quoi. J'ai finalisé dans mon atelier. Mais sinon, on avait épinglé et tout a pris forme le dernier jour.
D'accord, la restitution, en fait. Bon, eh bien, on va faire une petite pause musicale pour commencer. Première.
Madame rêve d'atomise et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin. Madame rêve libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. Au ciel.
Vous écoutez sur Open Space, le magazine des arts visuels, et nous sommes en compagnie de Christine Mazurou pour Baltimore au petit matin, une exposition présentée actuellement au Centre chorégraphique national de Montpellier, boulevard Louis Blanc, et c'est jusqu'au 12 novembre. Alors justement, Christine Mazurou, nous allons rentrer dans l'exposition qui se tient dans l'espace qui s'intitule, enfin, réservé aux expositions au Centre chorégraphique, qui est la chambre d'écho. Baltimore au petit matin, ce titre, non, c'est pas Baltimore au petit matin, c'est Baltimore au lever du jour.
Absolument.
Depuis tout à l'heure, je me trompe, c'est Baltimore au lever du jour. Je suis désolée, chers auditeurs et Christine, d'avoir écorché le titre de votre exposition, mais Baltimore au lever du jour, donc. Le titre que vous avez confié, donné à cette installation, à cette exposition, vient d'où? Pourquoi?
Alors, en fait, j'avais envie de donner une forme plastique à cette célèbre formule de Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Et je me suis replongée dans certains de ses séminaires. Et il avait donné une conférence à Baltimore en 66, voilà, avec un titre très pompeux, où il parle de choses de signifiant, de signifié, de linguistique. Voilà, mais... voilà, il explique pourquoi il a choisi cette formule « l'inconscient est structuré comme un langage ». Et puis, à un moment donné, il a cette phrase extrêmement poétique. Il dit, vous voyez, voilà, ce matin, j'étais en train de préparer la conférence en pensant que j'allais m'adresser à vous. J'étais dans ma chambre d'hôtel au 7e étage, Baltimore, au pied de l'hôtel. Et d'un seul coup... devant ma fenêtre, je vois les phares des voitures au loin, je vois l'enseigne Coca-Cola qui s'allume, s'éteint alternativement, un néon qui donne l'heure chaque seconde. La plus belle image que je puisse vous donner de l'inconscient, l'inconscient, c'est Baltimore au lever du jour. Donc j'ai trouvé ça extrêmement poétique et c'est une belle façon de dire cette altérité, c'est-à-dire que l'inconscient donc se dit à travers des mots, mais la singularité, la nature même de l'inconscient fait que ça parle en nous, même quand nous ne souhaitons pas. Donc en fait, cette chose, ça parle en nous, ça parle effectivement dans les rêves, ce pourquoi j'ai brodé des rêves, mais ça parle aussi à travers les lapsus, les actes manqués. Des fois, quand notre vigilance tombe, ça parle, voilà. Ça parle en nous, et d'ailleurs même quand simplement on est tranquillement chez soi, en train de faire une activité, voilà, il y a sans arrêt des phrases, des choses qui viennent dans notre pensée, qu'on n'a pas guidées, qu'on n'a pas décidées. Ça parle en nous. Notre inconscient, voilà, c'est quand même la plus grosse partie de notre psyché.
Oui, et donc l'exposition, on va revenir plus simplement dans la salle, l'espace. Ouais. C'est une installation, il y a la lumière, on y voit des oreillers, des draps brodés, voilà, et ce sont des rêves.
Tout à fait.
Vous avez brodé et ces rêves n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des rêves d'auteurs, d'écrivains, d'artistes.
Oui.
Et comment avez-vous voilà, choisi cet artiste ou cet écrivain comme Il y a Daniel Pénac, il y a aussi le rêve de Federico Fellini, le rêve de d'auteurs, femmes engagées, comme Siri Utzvest, je prononce mal, comme aussi Christine Mastureau également. Christ, voilà, il y a aussi votre rêve. Enfin bon, je pourrais les citer tous, mais on va en parler un petit peu plus en détail de l'installation, de l'exposition, du cœur de l'exposition, de ce que vous présentez au CCN.
Alors donc effectivement, j'ai pioché dans la littérature, comme je viens de vous dire, l'inconscient, ça passe par le langage. Donc le langage, c'est aussi très proche de l'écriture. Et donc, j'ai choisi, je suis une grande lectrice, et donc j'ai choisi des auteurs qui avaient un certain rapport à leur inconscient. Des auteurs qui parlent de leurs rêves, qui s'appuient sur leurs rêves. Ce sont des auteurs que j'affectionne particulièrement, effectivement, pour leur engagement du côté du féminisme, mais pas seulement. Voilà, du côté en tout cas d'une prise en compte très grande de leur inconscient, que ce soit Daniel Pénac, Monique Wittig, Giacometti, Arenas, voilà, des gens qui ont eu à cœur de mixer comme ça l'écoute de leur inconscient et la question du texte écrit et du texte inconscient.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui est assez, c'est pas le mot, mais ce qui retient notre attention dans l'exposition, ces broderies, c'est que on voit vraiment comme une page blanche, en fait, que vous avez utilisé l'oreiller ou le drap, en fait, comme une page, et qu'il y a vraiment cette écriture, et à chaque fois qu'il y a une typographie particulière, en principe, elles sont rouges, les lettres, mais pas forcément, c'est du texte, il y a comme une maquette, on va dire. Des maquettes, enfin voilà, comme on pourrait parler d'un texte sur un papier. Et c'est très visuel aussi. Oui. Et avec cette ambiance, avec les lumières par intermittence, qui évoquent le sommeil, évidemment.
Qui évoquent le sommeil et qui sont là pour évoquer justement cette idée que l'inconscient vient s'éclairer et puis disparaît. Le rêve, on peut le choper le matin au réveil. Comme ça, des fois, on a un fil, justement. Il y a de nombreux signifiants communs entre la psychanalyse et la broderie. Donc, on tient le fil du rêve et puis, paf, on commence à le dérouler et on arrive à en faire le récit. Mais donc, sinon, ça repart dans le noir, dans les profondeurs de notre inconscient. C'est pour ça qu'il y a ces lumières qui illuminent alternativement une pièce et l'ensemble des pièces.
Oui, en fait, c'est en même temps une expérience, en fait, que le visiteur est amené à est invité dans l'exposition, parce qu'on est voilà ce noir, cette lumière, enfin cet éclairage parfois, et on se replonge peut-être. Qu'est-ce que vous attendiez des visiteurs, en fait, je sais pas,
moi, ce que j'attends, en fait, effectivement, j'aimerais que chacun puisse imaginer ce qu'il déposerait comme texte sur un oreiller s'il avait à suspendre sa propre sculpture, c'est-à-dire son propre oreiller. Qu'est-ce qu'il inscrirait comme rêve ? Voilà, tout le monde rêve, mais chacun n'a pas ce rapport intime et quotidien. Moi, j'écris beaucoup mes rêves, je m'appuie beaucoup dessus dans ma vie. Et je ne suis pas la seule, de nombreuses personnes tiennent compte de leurs rêves, mais pas tout le temps. Et moi, je trouve qu'il y a une telle richesse, cet inconscient nous parle.
Il faut s'en souvenir des rêves, c'est
voilà. Mais quand on fait ce travail, plus on fait ce travail d'essayer de s'en souvenir, plus on s'en souvient.
Mais quelle est la démarche pour pouvoir s'en souvenir, parce que c'est...
Eh bien, juste se dire le matin au réveil, de quoi j'ai rêvé. Et paf, des fois, il y a juste une bribe, des fois, il y a juste un mot. Et puis,
c'est un exercice, oui, et vous voulez dire ça. Si on prend le pli,
on finira par
vraiment s'en
souvenir. Tout à fait, absolument.
Parce que c'est ce qui échappe parfois, c'est qu'on a une bribe de rêve et on se dit et après, qu'est-ce qu'il y a, je ne me souviens plus. Et voilà, donc je pense qu'en prenant le temps et le pli de le faire tous les jours, peut-être qu'on arrive effectivement à se souvenir de ses rêves. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, de nombreux artistes aussi sont parler du rêve, dans l'inconscient
et
le rêve.
On a parlé de Fellini tout à l'heure. Fellini, il a écrit un bouquin énorme, il a dessiné et écrit tous ses rêves. Tous les jours, un ou deux rêves. Mm-hmm. Et tous ses films, sa filmographie, on retrouve dans ses dessins toute sa filmographie. Je veux dire, les femmes au sein énorme, les énormes bateaux, les lumières, les... on retrouve tout dans ses rêves.
On retrouve Fellini.
Ah bah oui.
Oui. Le Fellini qu'on connaît au cinéma, enfin bon, voilà, c'est son inconscient qui
tout
parle.
Tout à fait.
C'est, et dans l'exposition, il y a également une installation, une sculpture, un cerveau.
Oui.
En bande magnétique. Voilà, moi, c'est une pièce qui m'attire beaucoup. Et je sais que vous avez aussi fait toute une série de cerveaux. Bon, là, il n'y en a qu'une seule. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de la pièce qui est exposée dans la chambre d'écho au CCN?
Oui, bah donc cette pièce...
Elle a un titre.
Elle s'appelle Mémoire.
Tout simplement.
C'est tout simple, oui. Donc, bah, effectivement, j'ai crocheté de la bande magnétique. C'est une bande magnétique personnelle. Hein. C'est une bande magnétique que ma sœur et moi, on envoyait à mon père à une époque où il habitait loin. Et bon, c'était une époque où il y avait toujours ces magnétophones. On se mettait devant le magnéto et puis on enregistrait. Voilà, mais c'est pour dire, ça pourrait être n'importe quoi ou n'importe qui peut se projeter sur... Parce que une des particularités quand même du cerveau, c'est qu'il enregistre. Il enregistre, c'est une mémoire. Freud l'a dit, il a parlé du bloc-notes magique, c'est-à-dire que même si on pense avoir oublié, on oublie beaucoup de choses, heureusement, pour laisser entrer du nouveau. Mais malgré tout, tout reste enregistré. Et donc... il y a cette bande magnétique qui est en volume, qui fait comme ça des circonvolutions, on va dire, qui prend la lumière d'une certaine façon. Et voilà, donc c'est vrai qu'elle attire cette pièce parce que on ne sait pas tout de suite si c'est un cerveau, ce que ça... Voilà, mais en s'approchant, et la matière aussi, hein, j'aime beaucoup me servir d'autres matériaux que le fil. On peut tricoter, crocheter d'autres matières que simplement le fil.
Oui, que le fil de tissu, vous avez aussi, dans la série des cerveaux, il y a aussi un fil de cuivre.
De cuivre, tout à fait, un cerveau qui s'appelle, sur le même principe, qui s'appelle fil conducteur, c'est que du cuivre, un fil de cuivre qui est... tressé, qui est crocheté comme ça pour faire aussi des circonvolutions, un cerveau.
Bon, on va revenir un petit peu au rêve avec un extrait d'une chanson une musique de Laurie Anderson qui parle de rêve justement.
Last night I dreamed I died, and that my life had been rearranged into some kind of theme park. And all my friends were walking up and down the boardwalk, and my dead grandmother was selling cotton candy out of a little shack. And there was this big Ferris wheel about half a mile out in the ocean, half in and half out of the water. And all my old boyfriends were on it with their new girlfriends. And the boys were waving and shouting. And the girls were saying, "Eek." Then they disappear under the surface of the water. And when they come up, they're laughing and gasping for breath.
Donc nous sommes toujours dans Open Space, le magazine des arts visuels, en compagnie de Christine Mazuro pour l'exposition Baltimore au lever du jour, présentée au CCN à Montpellier jusqu'au 12 novembre. Je rappelle les horaires d'ouverture de l'exposition, c'est uniquement c'est le mercredi et le jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h et une heure avant chaque spectacle présenté au CCN. Et bien sûr, dans l'exposition, vous êtes accueillis par un personnage qui s'appelle Lucien Dallaglio, qui est le gardien de l'exposition, mais aussi un médiateur. Et il vous a raconté une anecdote quand il reçoit des... Parce qu'ils reçoivent aussi des jeunes publics qui viennent aussi visiter l'exposition. Et que s'est-il passé avec ses enfants?
Oui, donc il m'a parlé d'une maîtresse qui est venue accompagnée de sa classe, qui avait fait peut-être un travail de préparation. Et donc, visiblement, chaque enfant, il était très, très touché. J'aurais adoré voir... En fait, justement, comment l'œuvre prenait vie comme ça, avec tous ces enfants qui faisaient chacun à leur tour le récit de son propre rêve. Et je n'ai pas vraiment saisi si c'était un autre qui dansait ou l'ensemble des personnes qui dansaient en même temps que l'un des enfants faisait le récit de son rêve.
Oui.
Voilà, donc enfin, j'ai trouvé ça... Et lui, il était bouleversé. Il m'a dit que c'était hyper touchant, que chacun était très, très à l'écoute. Qu'ils étaient très animés par... Et c'est vrai que les enfants sont encore plus proches de leur inconscient. Plus on grandit, plus la morale vient nous enfermer et réduire tout notre imaginaire, notre créativité et notre rapport à l'inconscient. Les enfants sont très proches de leur inconscient, c'est beau.
Oui, et donc voilà, donc l'exposition, et je le rappelle, c'est jusqu'au 12 novembre, donc dépêchez-vous. Je voulais parler également, en fait, il y a l'influence de la broderie dans l'art contemporain. Et je voulais citer un livre, hein, si nos éditeurs sont intéressés, qui s'appelle « De fil en aiguille, la broderie dans l'art contemporain », d'une autrice qui s'appelle Charlotte Vanier, et c'est aux éditions Pyramide. Et ce livre, justement, reprend un petit peu... plusieurs, enfin, parce que la broderie, aussi bien on la retrouve dans la photographie jusqu'au land art, plusieurs artistes sont inspirés par aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui depuis 10 ans, enfin un peu plus même. Hein. Et donc elle a regroupé comme ça une trentaine d'artistes, je crois, ou même un peu plus, même 80 artistes, je crois, qui travaillent la broderie aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais signaler ce livre. Et vous-même... Christine, vous êtes aussi amatrice d'art contemporain, vous aimez visiter des expositions.
Beaucoup.
Il y a des artistes qui vous inspirent aussi.
Oui.
Est-ce qu'il y a une exposition récemment qui vous a marqué ou une pièce d'un artiste que vous avez pu voir ici ou ailleurs?
Alors récemment, je ne sais pas, parce qu'on a été quand même privés
oui,
là,
c'est vrai,
ces
ouais.
derniers temps, mais bon, il y a quand même des artistes dont je me sens très, 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 très proche, qui m'ont inspirée et peut-être qui ont fait partie des maîtres qui m'ont autorisée. Je pense à Louise Bourgeois, par exemple, qui est férue de psychanalyse, qui est restée en psychanalyse jusqu'à la fin de sa vie.
Oui.
Plus de 90 ans, je ne sais plus quel âge elle avait,
ouais.
Voilà. Ou une artiste comme Sarah Lucas aussi, qui travaille avec le tissu, qui travaille avec les bas, qui travaille sur, à la fois l'inconscient, elle a travaillé autour du divan, elle a travaillé avec le tissu, le divan, et ses formes féminines, pour donner forme à des notions comme le transfert, des artistes qui m'inspirent beaucoup.
Oui, parce qu'elles sont aussi inspirées par la psychanalyse.
Absolument.
Enfin, je veux dire, c'est présent, la psychanalyse. On pense que... parce que la psychanalyse, c'est vrai que c'est... on pense que c'est un domaine un peu à part, quoi. Enfin, je sais
oui.
pas, ce que j'aime bien aussi dans votre exposition et dans votre travail, c'est que finalement, ça remet un petit peu la psychanalyse au cœur, quoi, en fait. Ça fait partie de notre vie aussi.
Absolument.
Il ne faut pas en avoir peur.
Exactement. Et j'ai à cœur de démystifier. Peut-être la psychanalyse a souffert pendant une période d'un manque d'ouverture. Hein. Les psychanalystes sont beaucoup restés dans l'entre-soi. Et c'est vrai que ouvrir cet espace plastique m'aide à sortir de la psychanalyse de son enfermement, peut-être. Donc... voilà, c'est donner, je pense, enfin j'aimerais bien, puisque vous me posiez la question de mes attentes par rapport à cette exposition, bah, voilà, peut-être aussi mes attentes, ce serait que bah, chacun soit à l'écoute de son inconscient, éventuellement que chacun puisse se dire, bah, pourquoi j'irais pas moi m'adresser à un psychanalyste,
oui,
pour écouter mes rêves, c'est pas, au contraire, c'est, voilà, c'est joli, il y a un voyage intérieur qui est magnifique.
Oui, c'est tout l'intérêt de la psychanalyse, quoi, voilà, parce que c'est aussi, c'est effectivement faire un voyage en soi, qu'en fait, à l'intérieur de soi, se redécouvrir, enfin, etc. C'est pas forcément parce qu'on a eu des traumatismes, qu'on est, voilà, la psychanalyse
absolument
est pour tout le monde.
Ah bah oui, ah oui, oui, oui. Oui.
Bon, bah écoutez, voilà, est-ce qu'on vous avez d'autres choses à rajouter ?
Non, pas spécialement. Vous avez fait référence à ce livre. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se tournent vers ce médium parce que.
La broderie.
Oui, la broderie, le fil, le tissu, parce que, voilà, ce sont peut-être des outils par rapport dans cette ère comme ça où on commence à être vraiment concerné par les problèmes écologiques. Voilà, c'est un matériau noble, naturel. Hein, voilà, le coton, le lin. Voilà, des artistes qui travaillent aussi sur des choses moins conceptuelles, mais avec un travail de la matière qui est magnifique. Hein. Je pense à une artiste comme Marinette Cueco, voilà, qui travaille qu'avec des herbes qu'elle cultive elle-même, qui fait un travail de crochetage et de maillage extraordinaire. Mais il y en a
voilà,
plein.
Voilà, hein. On peut en citer plein. Bon,
ah, oui.
Évidemment, Annette Messager, mais aussi des artistes comme Alighiero Boetti.
Absolument. Voilà, magnifique ce travail de tapis qu'il
voilà.
a fait.
Et c'est du splendide. Tissage. C'est du tissage.
C'est du tissage.
Ouais.
Il a fait des cartes magnifiques. Voilà, bah, tous ces artistes, alors évidemment parce qu'ils viennent résonner avec un outil que je connais et avec lequel j'ai été sensibilisée dès l'enfance. Donc c'est vrai que ça résonne fort.
Bon, merci Christine.
Donc, merci à vous Nathalie.
Merci beaucoup Christine Mazuro. Donc bon, pour l'exposition Baltimore au lever du jour, qui est visible jusqu'au 12 novembre 2021 au CCN. Donc vous pouvez consulter aussi le site du CCN, www.ici-ccn.com. Je voulais aussi reparler des prochaines expositions qui auront lieu au centre chorégraphique. Il y aura... Clarisse là, non mais ça, attendez, je sais plus où j'en suis, c'est le direct et c'est ça, dans mes petites fiches, bon bah écoutez, voilà, la prochaine exposition à la Chambre d'écho, ça sera Sophie Lally du 23 novembre au 21 janvier, ce sera plutôt des vidéos, et ensuite Clarissa Baumann du 8 février au 2 avril, et ça sera une installation, donc voilà, je vous propose de consulter le site www.ici-ccn.com et d'aller visiter l'exposition Baltimore au lever du jour avant le 12 novembre, boulevard Louis Blanc. Voilà, bien, Open Space, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur les ondes de Radio FM+. En attendant, vous pourrez réécouter l'émission sur 91 FM ce mardi à 18h10. Et l'émission est aussi réécoutable partout ailleurs en podcast en suivant le lien radiofm.com/openspace. Voilà. Et bien, c'était Nathalie Belaïche au micro de Radio FM+. À bientôt.